France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le cubisme et son temps par Paul Chavas. Picasso et les Demoiselles d'Avignon, témoignages et souvenirs de Henri Canveller, Alice Derain et Fernande Olivier sur Pablo Picasso. Entre 1901, la période dite rose du peintre, et 1908, date à laquelle Pablo Picasso avait déjà réalisé le fameux tableau « Les Demoiselles d'Avignon ». Un tableau qui décourageait ses meilleurs amis et l'isolait de ses acheteurs, à l'exception de Henri Canveller, qui l'a compris. Henri Canveller analyse l'état d'esprit de Picasso à cette époque, ses raisons de vivre à Paris contre sa ville natale de Barcelone, son insatisfaction devant la peinture existante, l'impressionnisme et les fauves. Le souci de la forme chez Picasso est une sorte de force qui l'entraîne. Alice Derain et Fernande Olivier campent le personnage de l'ami et de l'amant. La vie, à l'époque, tissée de solidarité, de convivialité entre les peintres et les poètes. À la fin, Pierre Olivier donne lecture du poème d'Apollinaire « L'enchanteur pourrissant », un grand poème cubiste fondé sur des impressions plastiques évidentes. « Arrivé au bord d'un fleuve, je le pris à deux mains et le brandis comme une épée. Et la source languissante m'avertit que si j'arrêtais le soleil, je le verrais carré en réalité. »
Le cubisme et son temps, une émission de Paul Chavas. Aujourd'hui, Picasso et les Demoiselles d'Avignon, avec la collaboration de Daniel-Henri Canveller, Alice Derain et Fernande Olivier. Poème lu par Pierre Olivier.
Dans les deux émissions précédentes, Daniel-Henri Canveller a évoqué pour nous le Paris du début du siècle, celui dans lequel allait se produire la révolution cubiste que rien ne semblait encore annoncer. Au printemps de 1907, Daniel-Henri Canveller a ouvert rue Vignon une galerie de tableaux car il désirait faire connaître et défendre les jeunes peintres dont les œuvres l'avaient touché. Aujourd'hui, nous savons qu'il est admirablement parvenu puisque par son amitié, par ses activités de marchand et de critique, il a permis aux peintres cubistes de réaliser leur œuvre. Mais en ce printemps de 1907, monsieur Canveller, et notons en passant que vous avez seulement 22 ans quand vous tentez cette aventure, en ce printemps de 1907 donc, on n'a pas encore prononcé le mot de cubisme. Comment avez-vous connu ceux qui en seront les promoteurs, c'est-à-dire Braque et Picasso? Tout d'abord Picasso. Quels ont été vos premiers contacts avec lui?
J'ai un peu honte de raconter une histoire que j'ai racontée déjà bien souvent, celle de ma première rencontre avec Picasso. J'étais dans ma petite boutique de la rue Vignon quand un jeune homme entra, un jeune homme pas très grand, aux cheveux très noirs, aux yeux noirs extraordinaires, un jeune homme habillé assez pauvrement, aux souliers poussiéreux. Ce jeune homme, sans rien dire, tourna autour de la petite boutique en regardant les tableaux qui étaient au mur et s'en fut. Le lendemain, je le vis revenir avec un monsieur qui me paraissait d'un certain âge. La même scène se répéta. Ils regardèrent les quatre murs de la boutique et partirent sans rien dire. J'étais, je dois le dire, intrigué, mais je ne savais pas du tout à qui j'avais affaire. Or, à peu près en même temps, quelqu'un qui devait devenir un ami très cher, Wilhelm Uhde, l'historien d'art et écrivain allemand qui habitait Paris depuis le début du siècle déjà, me raconta qu'il y avait dans l'atelier de Picasso un étrange tableau. C'est quelque chose d'assyrien, disait-il. Eh bien, j'avais envie de voir ce tableau, et c'est ainsi que pour la première fois, je montai ces escaliers de la place Ravignan, que je devais monter si souvent après, que j'entrais dans cette étrange bâtisse dont on a tant parlé après, le bateau lavoir, et que je frappais à la porte de l'atelier qu'on m'avait indiqué comme étant celui de Picasso. Or, le jeune homme qui m'ouvrit la porte, qui me prit par la main, c'était lui qui était venu deux jours auparavant me voir dans la petite boutique.
Mais vous aviez, je crois, déjà vu des œuvres antérieures de Picasso. Qu'en pensiez-vous ?
Dans mes pérégrinations dans les rues du quartier, qui alors était le quartier de la peinture, à savoir la rue Lafitte et la rue Pelletier, j'avais vu des œuvres de Picasso à deux devantures. À la devanture de Vollard, rarement, car rarement Vollard mettait quelque chose en devanture, mais très souvent à la devanture d'un petit marchand qui s'appelait Clovis Sagot. Ces œuvres m'avaient intrigué, mais je ne savais trop qu'en penser. C'était des œuvres presque toujours monochromes. Il y en avait dans des tonalités bleues et d'autres dans des tonalités roses. Tout cela me paraissait assez anachronique, car pour moi, à cette époque-là, c'était la couleur qui était le problème principal de la peinture, la couleur telle que la traitaient les fauves.
Et quand vous avez pénétré dans cet atelier, que vous avez fait connaissance avec Picasso, quelles toiles se trouvaient dans l'atelier ?
Eh bien, il y en avait certainement beaucoup, les quelques-unes roulées, des dessins roulés aussi. Il y avait beaucoup de poussière par-dessus tout cela. Et il y avait un très grand tableau. Le tableau qui, depuis, a été appelé Les Demoiselles d'Avignon.
Et quelle a été votre impression ?
J'étais stupéfait d'abord, ébloui ensuite. Il me paraissait que là, quelque chose se passait d'inouï, d'extraordinaire, d'admirable. Je devais être un des très rares qui avait cette impression-là. Il faut bien que je vous dise l'affreuse solitude morale dans laquelle Picasso a été à cette époque-là. Aucun de ses amis peintres le suivait. J'ai su plus tard que Braque, qui a vu le tableau, je pense par Apollinaire, en parlait en disant qu'il lui semblait de peindre de cette façon-là. C'était comme si l'on buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Dorin m'a dit à moi-même qu'on trouverait Picasso pendu un jour derrière ce grand tableau. Vollard, qui avait acheté ses œuvres, n'en achetait plus. Picasso était seul, affreusement seul.
Des amitiés, cependant, des amitiés fidèles, Picasso en a eu dès ses premiers séjours à Paris. Macorlan, André Salmon nous l'ont déjà rappelé. Mais l'amitié peut-être la plus ancienne, c'est celle qui a lié Picasso à Alice Derain, qui était très jeune alors, n'avait pas encore épousé le peintre André Derain. Je crois, Madame Derain, que c'est en 1901 que vous avez connu Picasso.
C'est un ami commun qui est venu un jour, un matin, me voir. Et il m'a dit, Alice, venez vite, venez vite. Je vous emmène chez un peintre merveilleux, que personne ne connaît, mais ses œuvres vaudront des fortunes plus tard. Enfin, tout comme ça, nous sommes arrivés jusqu'à chez Picasso, qui habitait boulevard de Clichy. Un petit jeune homme vient nous ouvrir, qui était en chemise blanche, je me souviens. Il avait une culotte bleue et une chemise blanche. Et, enfin, on l'a vu longtemps, quand même, à peu près vêtu de cette façon. Nous avons parlé énormément de beaucoup de choses. Il m'a parlé de beaucoup de ses amis de Barcelone, mais pas de question du tout de peinture. Et puis, sur ses entrefaites, il est parti en Espagne.
Mais quand Picasso est revenu en France, vous avez recommencé à le voir et vous êtes devenus des amis souvent inséparables.
Oh oui, nous sommes beaucoup vus à ce moment-là, surtout après son retour. Presque tous les jours, nous le voyons.
Vous alliez vous promener dans Paris, vous restiez à l'atelier?
Oh oui, j'allais évidemment à l'atelier, puis nous nous promenions dans Paris, il venait chez nous. Nous allions dîner ensemble au restaurant, lui il mangeait évidemment qu'au restaurant. Une fois, en rentrant, j'ai vu une malle au milieu de la... au milieu de l'atelier. Et derrière la malle, assise sur un divan très bas, le haut d'un visage. Et je m'avance, c'était une charmante personne, une très belle fille, qui s'appelait Fernande.
C'est ça, mais alors là, nous sommes déjà au bateau Lavoir.
Alors, nous sommes au bateau Lavoir.
Que peignait Picasso à ce moment-là?
Picasso peignait ses fameux époques bleues et son époque rose, n'est-ce pas? C'est-à-dire des arlequins, des maternités assez tristes, mais enfin, moi je m'étais imaginé qu'en Espagne c'était comme ça, je ne voyais pas le côté navrant, c'est sûr d'avoir été trop jeune peut-être pour voir ça.
Mais enfin, quand vous vous promeniez ensemble, est-ce que Picasso vous parlait de sa peinture, de ce qu'il souhaitait faire?
Oh, jamais, jamais. Picasso, d'abord, vous savez, les théories, et pas de théorie du tout, même pas dans ses conversations avec les autres peintres. Tous ces hommes-là peignaient, ils n'avaient pas de théorie, les théories sont faites bien après et pas par eux. Alors avec les femmes, encore bien moins qu'avec leurs camarades, bien sûr.
Mais avez-vous eu l'impression que Picasso, pendant ses premières années de Paris, menait une vie très misérable?
On ne peut pas dire qu'on se rappelle Picasso misérable. Car Picasso, depuis qu'il a mis le pied en France, ça devait être déjà la même chose à Barcelone, il avait une cour autour de lui. Il a toujours eu des amis et il a toujours été encensé. Alors quelqu'un qui est tellement soutenu, tellement aimé, n'est pas misérable, n'est-ce pas, même s'il n'a pas de sous dans sa poche.
Et c'est à cette époque-là, vers 1903-1904, que Picasso a fait votre portrait, celui que vous avez maintenant.
Oui, de ce dessin. C'était un jour que je lisais un livre qu'Apollinaire apportait. C'était l'Anti-Justine et c'était une édition du Temps. Comme tout le monde voulait le lire, il l'apportait chez Picasso. Puis on venait chacun son tour lire ce livre. Et c'était mon tour ce jour-là, et je lisais, vous avez pu voir sur le portrait, avec une grande attention.
Mais un jour, en venant dans cet atelier du bateau Lavoir qui vous était très familier, vous avez vu un tableau qu'on a appelé par la suite les Demoiselles d'Avignon. Est-ce que vous vous rappelez l'impression que vous avez éprouvée?
Oui, je me rappelle très très bien. J'ai pensé que Picasso s'était jeté un défi à lui-même, pour ainsi dire. Puis j'ai trouvé que c'était pas de la peinture qu'il aurait dû faire, il aurait dû trouver un art nouveau alors, mais que c'était pas de la peinture, voilà mon impression.
Ce tableau qui a vraiment marqué une rupture dans l'art de peindre de Picasso, dans l'art de peindre de notre époque d'ailleurs, a donc provoqué aussi, pendant un temps du moins, un certain refroidissement des amitiés. Ainsi, dans le livre qu'il consacra en 1912 à la jeune peinture française, André Salmon, déjà lié de longue date avec Picasso, écrivait: l'artiste se trouvait alors dans une position vraiment tragique. Il n'avait pas encore de disciples, des peintres amis s'écartaient de lui. L'atelier de la rue Ravignan n'était plus le rendez-vous des poètes. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, M. Canveller, Picasso était donc seul, affreusement seul. Pourquoi avait-il donc éprouvé le besoin d'abandonner cette manière de peindre qui avait été la sienne jusqu'à ce moment-là?
Je pourrais vous dire simplement que cette façon de peindre ne le satisfaisait pas. Que d'autre part, évidemment, ce que faisaient les fauves non plus ne le satisfaisait pas. Car ça n'est pas la peinture du fauve qui a été le point de départ de l'art de notre temps, mais bien ce tableau-là, les Demoiselles d'Avignon. Or, ce que Picasso avait fait auparavant, ma foi, il faut tout de même que nous parlions un peu de ses origines pour voir clair. Picasso avait été une sorte d'enfant prodige. Son père, qui était peintre et professeur de dessin, l'avait fait travailler très jeune, et comme il a dit lui-même un jour, en voyant des dessins d'enfants, à cet âge-là, je faisais des dessins dans le genre de Raphaël. C'est vrai, c'est vrai. Après vient l'époque de Barcelone, où il va évidemment à l'école des Beaux-Arts, époque que lui-même considère comme la plus faible de sa vie. Là, il y a eu l'emprise de l'académisme catalan. C'est de cette emprise-là qu'il se défait en venant à Paris.
Mais ce premier séjour à Paris a-t-il influencé son art ?
Trop d'impressions s'amoncelaient, se jetaient sur lui, si je puis dire. La meilleure, la seule valable, était évidemment celle de Lautrec. Un peu plus tard, l'influence prépondérante, c'est celle de Gauguin. Tout cela ne pouvait pas satisfaire Picasso.
Comment s'orientaient donc les réflexions de Picasso ?
Lui, il pensait tout d'abord toujours à la forme. Et quand il s'est lancé de la façon la plus téméraire dans ce grand tableau, Les Demoiselles d'Avignon, il a essayé de réaliser toutes les idées qui lui étaient venues. D'une part, à la suite de Cézanne qu'il avait découvert, il trouvait que la peinture d'alors était une peinture trop abandonnée au hasard. Le tableau n'était plus fermement construit, architectural. Il était devenu, à la suite des impressionnistes, une sorte de tranche de nature servie avec art. Lui voulait donc, en premier lieu, reconstituer ce qu'on peut appeler le tableau objet. Ensuite, il voulait donner de la forme, une expression plus forte, plus ferme, plus vraie, si je puis dire, que ce que les impressionnistes avaient voulu donner, ce que les fauves avaient pu donner. Et ensuite, évidemment, il pensait aussi à donner des objets leur vraie couleur.
C'est-à-dire leur vraie couleur ?
Le ton local, c'est-à-dire la couleur non décolorée par la lumière. La couleur telle que nous la savons peut-être, non pas seulement telle que nous la voyons. Nous disons d'un certain objet qu'il est rouge, mais il est bien évident que les hasards, l'éclairage, peuvent le décolorer, mais nous le savons rouge.
Comment Picasso a-t-il pu résoudre ces différents problèmes dans le tableau dont nous parlions jusqu'à maintenant, Les Demoiselles d'Avignon ?
Ayant essayé de résoudre toutes ces questions, il était forcément resté arrêté court. Le tableau, il ne le considérait pas comme terminé à cette époque-là, mais il n'a pas changé du tout. Il est resté exactement comme il était alors. Il n'y avait sans doute même pas possibilité de le continuer. Il fallait serrer les questions. Tel qu'il est, le tableau, il représente d'une part la suite de ce qu'on a appelé l'époque rose chez Picasso. Cette époque rose avait été une tentative très sérieuse de résoudre la question de la forme de façon classiciste, si vous voulez, de donner un aspect des objets, des formes, des personnes aussi du corps humain, aussi clair, aussi précis que possible, mais sans aucune déformation, sans rien changer à une vision qui a été celle de l'époque gréco-romaine et de la Renaissance. Dans le tableau dont nous parlons, évidemment, ces formes s'étaient durcies. Elles étaient, comme on disait alors, comme taillées à coups de hache. Mais le tout était encore monochrome. Toute autre chose s'était passée dans l'autre moitié du tableau, la moitié droite. Là, les couleurs étaient posées d'une façon absolument nouvelle, étirées, si je puis dire, des couleurs très violentes et qui modelaient par leur direction déjà les formes. C'est cette partie-là, évidemment, qui avait tant intrigué et choqué les visiteurs.
Mais à quel moment avez-vous établi avec Picasso des rapports peintre-marchand ? Est-ce dès ce moment-là ?
Ah, dès ce moment-là. J'ai acheté, je pense, ce jour-là même, ou tout au moins le lendemain ou le surlendemain, quelques gouaches de la même époque et des très petits tableaux qui participaient déjà de ce nouvel esprit.
Et ce grand tableau, appelé aujourd'hui Les Demoiselles d'Avignon, l'avez-vous acheté ?
Je n'aurais pas pu l'acheter pour la raison très simple qu'il ne voulait pas le vendre. Il le considérait comme non terminé. Il est resté dans son atelier jusque dans les années 30, un beau jour, il l'a vendu à Doucet, le couturier collectionneur. Et maintenant, il est au Musée d'Art Moderne à New York.
Mais ces premiers achats, Monsieur Canveller, que vous avez faits à Picasso, avez-vous rapidement trouvé un amateur qui vous les a rachetés?
Ma foi, j'en ai trouvé un immédiatement, qui était mon ami très cher, Hermann Rupf, qui, bientôt après, a acheté une de ses gouaches, un paysage, un arbre, qu'il possède toujours.
Mais tandis que ces rapports s'établissaient entre vous et Picasso, il y avait aussi, très rapidement, des rapports d'amitié, n'est-ce pas?
Il me semble que ça n'était pas concevable autrement. Ces rapports se sont établis très rapidement. Nous voyons à l'atelier, nous voyons dans ma petite boutique, nous voyons aussi en dehors. Et je faisais, évidemment, la connaissance des amis de Picasso, et notamment des deux poètes que j'ai édités ensuite, et dont je suis resté toujours l'admirateur, Guillaume Apollinaire et Max Jacob.
Le pré est vénéneux mais joli en automne. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Le colchic couleur de cerne et de lilas y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles, et sont couleur de tes paupières qui battent comme les fleurs battent au vent dément. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que lente et meuglant, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne.
Monsieur Canveller, puisque vous étiez un familier de l'atelier de Picasso et de ce qu'on a appelé aussi la bande Picasso, je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer assez souvent celle qu'on appelle familièrement Fernande, c'est-à-dire Fernande Olivier.
Je l'ai vue le premier jour même. Quand je suis entré dans l'atelier, j'y ai aperçu une très belle femme et un très gros chien. La très belle femme était Fernande et le très gros chien s'appelait Frica.
Nous allons donc demander à Fernande Olivier de nous rappeler quelques-uns des souvenirs de cette époque-là.
J'ai connu Picasso vers 1902 ou 3. Picasso habitait sous la Grande Porte, l'atelier au rez-de-chaussée au fond, et moi j'habitais un atelier sur la place, à côté. Et alors, le soir, je sortais une chaise, j'étais là avec ma sœur, et puis je restais. Et naturellement, j'étais assez jolie fille. Tous les peintres, tous les Espagnols me regardaient par les entrées. Et un jour, Picasso, je rentrais, il y avait un temps orageux, terrible. Et il s'est pris d'audace, il est venu vers moi. Il avait un tout petit chat dans les mains. Il m'a dit, le voulez-vous? J'ai dit, ma foi, oui, pourquoi pas. Et comme il tonnait, il commençait à pleuvoir, je suis entrée chez lui. Mon Dieu, l'orage, vous savez, ça vous incite à bien des mouvements qui ne sont pas très, très réguliers, disons. Alors, je le fréquentais comme ça quelque temps, et puis je suis revenue avec lui complètement, alors, un an ou deux plus tard. C'était le jour de l'inauguration de la statue du chevalier de la Barre. Il faisait chaud, chaud. On a été chercher le peu d'affaires que j'avais. Je posais à ce moment-là, je ne suis pas bien riche. Et je suis entrée chez lui.
Et vous avez vécu assez longtemps avec Picasso?
Oh, oui, 10 ans, près de 10 ans.
Mais comment était cet atelier la première fois où vous avez pénétré dans sa maison?
Très bizarre. Il y avait des toiles par terre, il y avait un petit lit dans le coin qui nous a servi pendant des années. Une petite table en bois blanc où il y avait des souris blanches dans le tiroir. Alors nous avons vécu là, tant bien que mal. Plutôt bien que mal parce que quand on est jeune, avec beaucoup de monde, Apollinaire, Salmon, Max Jacob naturellement. Et La table était ouverte. Avec 3 francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. Et on n'avait pas souvent les 3 francs. Mais enfin, ça s'arrangeait toujours. De temps en temps, il y avait Olivier Sincère, conseiller d'État, qui doit être mort maintenant, sûrement, qui venait frapper le matin. Alors Picasso travaillait la nuit. Et naturellement, nous le vions tard. Et Olivier Sincère arrivait toujours vers les 10 heures. Alors notre brave concierge, qui aimait beaucoup ses artistes, venait frapper à la porte pour qu'on se lève. Ouvrez, ouvrez, monsieur Picasso, c'est sérieux, c'est sérieux. Alors, Olivier Sincère arrivait avec son chapeau de forme et puis il partait toujours en laissant 200 ou 300 francs. Alors pour nous, c'était pactole. Que nous dépensions ensemble en allant au cirque, en allant au restaurant avec tous les amis. Et puis après, ça a commencé à aller. Les Stein sont arrivés, ils ont acheté, mais on habitait toujours le bateau Lavoir, et Picasso était toujours habillé en bleu de zingueur et avec des belles cravates, par exemple. Il avait la folie des cravates en crêpe de Chine de couleur vive, comme de Rhin.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.
Et puis, alors, il y avait toujours Marc Jacob, qui à ce moment-là habitait rue Ravignan, à Bouge. Une petite chambre sur la cour, au-dessus des poubelles, où il recevait tous les lundis. Et puis, Apollinaire, alors qu'il venait depuis longtemps, Salmond, il venait à n'importe quelle heure. Guillaume Apollinaire, pendant 9 ans, il a pris ce déjeuner chez nous.
Oui, Picasso avait écrit sur sa porte au bateau Lavoir, au rendez-vous des poètes.
Oui, comme je n'avais pas beaucoup de linge, un jour j'ai dit, écoutez, à Salmond, à Guillaume, à Max, vous aurez chacun votre coin de serviette.
C'est d'ailleurs de ça que s'est souvenu Apollinaire, quand il a écrit la serviette des poètes.
Ah oui, mais c'est moi qui l'avais inventé, la serviette des poètes. Il y a Marie-Laurencin qui venait aussi. Ils avaient fait la connaissance de Marie-Laurencin chez Sago. Un soir, ils sont revenus, Guillaume et Pablo, m'ont dit, tu sais, on a fait la connaissance d'une fille extraordinaire. On ne la comprend pas, mais ça n'a pas d'importance. Elle nous amuse. Et en effet, elle était très amusante. Elle faisait l'enfant, naturellement. Mais au commencement, avec moi, ça n'a pas bien marché, mais après, on a été très amis.
Vous avez passé des vacances dans la région parisienne, à la rue des Bois.
Oui, nous avons été dans une ferme. On a logé, là, bien tranquillement. Et Picasso ne s'y faisait pas, parce que la campagne française, ça sent le champignon.
Parmi tous ces amis des peintres, il y a, Madame de Rhin, plusieurs poètes que vous avez bien connus. J'en citerai 3, par exemple, les plus importants, André Salmond, Max Jacob et Apollinaire. André Salmond, je sais qu'André de Rhin a été très lié avec lui. Il a illustré en 1920 le recueil de poèmes de Salmond intitulé « Le Calumet ». Et Salmond, de son côté, a consacré une étude à André de Rhin. Mais je crois que c'est encore Apollinaire que vous, madame, vous avez le mieux connu. Est-ce que vous vous rappelez dans quelles circonstances ?
C'était un déjeuner que je prenais dans un petit restaurant qui s'appelait Vernin et qui était fréquenté par Picasso également. C'est un restaurant pour lequel Mac Jacob avait fait une chanson.
Ça m'embête d'aller chez Vernin, mais il y faut aller tout de même, parce qu'on y prend des verres nains et des fromages à la crème.
Picasso est rentré avec un garçon qui n'avait pas du tout la mise des hommes que nous connaissions à ce moment-là.
Il faisait plus bourgeois.
Bourgeois débonnaire. Il avait son chapeau blond un peu sur le côté de la tête, n'est-ce pas ? Et puis très alerte, pas embarrassé du tout.
Oui, Apollinaire était un causeur très brillant et je pense que sa conversation devait être tout à fait passionnante. Est-ce qu'il vous lisait volontiers ses poèmes ou est-ce qu'il vous les donnait à lire?
Oh, il nous les lisait. Et je me souviens justement de l'enchanteur pourrissant.
Les charbons du ciel étaient si proches que je craignais leur ardeur. Ils étaient sur le point de me brûler. Mais j'avais la conscience des éternités de l'homme et de la femme. Deux animaux dissemblables s'accouplaient, et les rosiers provignaient des treilles qu'alourdissaient des grappes de lune. De la gorge du singe, il sortit des flammes qui fleurdelisèrent le monde. Dans les myrtais, une hermine blanchissait. Mais j'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme. Vers le soir, les arbres s'envolèrent, les singes devinrent immobiles, et je me vis au centuple. La troupe que j'étais s'assit au bord de la mer. De grands vaisseaux d'or passaient à l'horizon, et quand la nuit fut complète, 100 flammes vinrent à ma rencontre. Je procréai 100 enfants mâles, dont les nourrices furent la lune et la colline. Ils aimèrent les rois désossés qu'on agitait sur les balcons. Arrivé au bord d'un fleuve, je le pris à deux mains et le brandis. Cette épée me désaltéra. Et la source languissante m'avertit que si j'arrêtais le soleil, je le verrais carré en réalité. Centuplé, je nageais vers un archipel. 100 matelots m'accueillirent et m'ayant mené dans un palais, ils m'y tuèrent 99 fois. J'éclatai de rire à ce moment et dansai tandis qu'ils pleuraient. Je dansai à quatre pattes. Les matelots n'osaient plus bouger, car j'avais l'aspect effarant du lion.
C'était Le cubisme et son temps, une émission de Paul Chavas. Aujourd'hui, Picasso et les Demoiselles d'Avignon, avec la collaboration de Daniel-Henri Canveller, Alice Derain et Fernand d'Olivier. Poème lu par Pierre Olivier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 novembre 1961.